Les balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et culture pop.
Chers popophiles, popovores de tout poil, nous voici réunis à nouveau pour un nouvel épisode du podcast Pop en stock. Et cette fois-ci, nous allons nous consacrer à un domaine qui, je pense, a des fans parmi vous. Le domaine très vaste, très proliférant. Nous verrons pourquoi aussi il est très proliférant, du folk horror. Et pour cela, nous avons réuni une toute petite équipe. Je suis avec Sylvie Bartian, enseignante au Cégep, collaboratrice régulière à Pop en stock et au volet Cégep Pop. Et bientôt se joindra à nous Éric Falardeau, auteur de divers ouvrages, dont Le corps souillé, gore, pornographie et fluide corporel, qui est un spécialiste de tout ce qui est horrifique et qui est d'ailleurs aussi réalisateur de films d'horreur, avec notamment le Thanatomorphose. Donc voilà, on va parler de différents aspects. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions reliées au folk horror. On ne va pas concurrencer l'immense documentaire fait par notre ami Kier Lajanis sur le folk horror. C'est donc le documentaire de 2021, Woodlands Dark and Days Bewitched, A History of Folk Horror. On va partir de la base qu'on espère que vous aurez déjà vu le documentaire et si vous ne l'avez pas encore fait, on vous le conseille très très fortement. C'est tout à fait passionnant comme plongée dans les univers multiples et assez labyrinthiques de cette catégorie à la fois nouvelle et très ancienne du folk horror. Alors on va chacun d'entre nous parler un peu de différents aspects de cette question, mais sans avoir une visée exhaustive qui serait impossible, je pense, Sylvie.
Ben, en fait, moi, c'est bien sûr, j'ai toujours eu des goûts littéraires plutôt glauques, et je dirais que c'est la première œuvre qui m'a vraiment captivée, c'est Children of the Corn de Stephen King, donc le film qui m'a absolument terrifiée quand j'étais enfant, mais qui, c'est ça, mélange l'horreur religieuse, les enfants maléfiques. Et c'est vraiment un cocktail folk absolument irrésistible. Il y a eu aussi The Wicker Man, dont j'ai des vagues souvenirs. Et bien sûr, mon intérêt pour toute la littérature gothique, Poe, les Sœurs Brontë, Daphné du Maurier, puis les plus récents aussi, comme évidemment Stephen King, mais Tryon, Barker, Adam Neville, et aussi deux autrices québécoises, Fanny Demeule et Joyce Baker, des amies de Pop en stock également. Donc c'est ça, c'est à la fois à travers le cinéma et la littérature que je suis arrivée à ce domaine, et je suis tombée sur le documentaire dont tu parlais, qui est vraiment absolument exceptionnel.
Folk horror, c'est quand même un terme qui est très associé au cinéma. Il est apparu, enfin, il est devenu trending topic à travers des critiques cinématographiques de ce qu'on appelle donc la Unholy Trilogy, une trinité inversée, donc pour prendre le contre-pied de la trinité de la théologie chrétienne, Blood on Satan's Claw, Witchfinder General et The Wicker Man, donc les trois films britanniques des années 70 qui ont été englobés par la critique sous le terme de folk horror, même si le terme est beaucoup plus ancien et c'est un terme qu'on avait déjà associé à d'autres films depuis pratiquement le début du cinéma, mais c'est vraiment autour de la critique et puis surtout autour du revival dont on parlera, le renouveau dans les années 2010 de l'intérêt pour ce genre, où vraiment c'est devenu donc un label très 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 fréquent et maintenant très amplement reconnu. Mais justement, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait le folk horror a toujours été là à deux niveaux, donc c'est-à-dire dans la composante du folklore et dans la composante de l'horreur. Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est de voir comment l'horreur folk est vraiment à la croisée à la fois de l'émergence du folklore comme discipline et du gothique comme régime, forme, genre, esthétique. Et il est vraiment à la croisée dès les origines à la fois du gothique et du folklore. Le paradigme du folk horror, c'est avant tout le paradigme folklorique tel qu'il s'établit au 19e siècle. Et il faut comprendre, bon, je vais faire vraiment un très gros résumé, très très abusif, voire caricatural, Mais il faut voir que ça plonge vraiment ses racines dans non seulement l'émergence de la discipline du folklore comme tel, de l'étude du folklore, mais du folklore lui-même. Et ça, c'est vrai que c'est un terme qui est bivalent, parce que quand on parle de folklore, c'est un terme qui vient de la discipline elle-même. C'est un terme qui est introduit par un folkloriste en 1843 dans une des premières revues consacrées à l'étude de ce que nous maintenant on appelle le folklore, qui avait introduit ce terme-là. Donc la connaissance des choses relatives au peuple, donc lore et folk. Et donc l'ambivalence, c'est que quand on parle de folklore, on est à la fois en train de parler de ce que ça étudie, donc le folklore comme objet d'étude, et de la discipline qui étudie le folklore, les études, les folklore studies, le folklorisme, si on veut distinguer. Et donc, finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que quand émerge le paradigme du folklore, quand émerge l'idée de pouvoir étudier le folklore, ben, en fait, on est déjà, pour moi, dans le paradigme du folk horror. Pourquoi? Parce que finalement, ce que découvrent au 19e siècle les premiers qui vont se dire des folkloristes, ce qu'ils sont en train de découvrir, ben, c'est justement quelque chose de très complexe, de très ancien, de très enfoui dans la culture paysanne, dans la culture populaire. Il faut comprendre que pendant des siècles, il y a eu une cohabitation très étrange en Europe entre le christianisme et le paganisme, et que selon des chronologies diverses, selon les pays, mais aussi surtout selon les régions, parce que c'était très morcelé. La structure féodale était très, très, très morcelée et il n'y avait pas les États-nations encore, etc., etc. Donc, selon les coins, il y avait des tensions tout à fait spécifiques entre la tentative de christianisation et le legs des sociétés pré-chrétiennes. Et alors, il y avait fondamentalement trois façons de dealer avec cette situation. Un, c'était la destruction, donc le fait de lutter pour éliminer le passé païen, mais ce n'est pas ce qui a marché le mieux. Ensuite, il y avait l'assimilation, c'est ce qu'on appelait le syncrétisme religieux, c'est-à-dire que quand les chrétiens arrivaient dans un village où il y avait encore des traditions très fortes celtiques ou scandinaves, nordiques, etc., etc., bah souvent le plus simple, c'était de transformer ça en des coutumes christianisées. Donc finalement, les dieux païens devenaient des saints ou des saintes et les vieux lieux de culte devenaient des églises où on mettait une croix, etc., etc. Donc le syncrétisme, ça a été une manière de cohabitation entre donc les croyances très anciennes et le christianisme. Et enfin, la troisième position, c'était quand l'église se sentait totalement débordée, bah finalement, c'était le laisser-faire, laisser-passer. L'acceptation, on disait, bon, finalement, ces gens-là, ils sont vraiment paumés, il n'y a personne qui va se rendre ici, donc on va les laisser faire leur truc complètement païen. Donc ça a duré pendant des siècles, et c'est beaucoup avec la réforme protestante et la contre-réforme que ça change, parce que il y a à ce moment-là, on est aussi aux origines des États modernes, etc., etc. Et c'est à ce moment-là que vraiment l'Église décide, à la fois les Églises réformées et l'Église catholique vont décider une bonne fois pour toutes, une acculturation de masse. Et là, il y aura, à partir donc du XVIe siècle, une volonté beaucoup plus forte de intervenir sur les croyances anciennes. Et d'un côté, il y aura les chasses aux sorciers et sorcières. D'un autre côté, il y aura toute une série de traités, etc., sur les superstitions, et une volonté donc d'éradication. Or, ce qui va se passer, c'est que finalement, cette culture populaire, elle va survivre à cette volonté. Et elle va même connaître comme une sorte de deuxième vie un peu étrange, parce que finalement, ce que ces premiers traités sur les superstitions vont faire à partir du XVIe siècle, XVIe, XVIIe plutôt, en fait, ce que ça va faire, c'est que finalement, ça va intégrer dans le discours lettré, dans le discours savant, dans la culture des élites, ça va intégrer beaucoup de connaissances, de pratiques, d'imaginaires, etc., beaucoup plus ancien. Et c'est dans ce contexte-là que va émerger les tout premiers textes qui ne s'appelle pas encore de folklore, mais qui s'appelle d'antiquité populaire, les popular antiquities. Et ça va être populaire. Au XVIIe siècle, beaucoup de gens de l'aristocratie ou des élites vont commencer à regarder d'un nouvel œil toutes ces pratiques étranges qui les entourent littéralement encore, parce que dès qu'on sort de Londres, dès qu'on sort de Paris, dès qu'on sort de Madrid, Moscou, etc., on tombe dans des campagnes où il y a encore toute une réalité de ces pratiques. Et donc, c'est ces auteurs, les premiers auteurs d'antiquité populaire, qui commencent à regarder ça sous un nouvel œil. Mais pourquoi est-ce qu'ils regardent ça sous un nouvel œil? C'est aussi parce que finalement, c'est la culture urbaine, moderne, etc., qui est beaucoup plus sûre d'elle-même. On s'en va peu à peu vers la révolution industrielle. On est déjà dans des états modernes du type absolutisme, etc., etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne voit plus ça comme des superstitions qu'il faut combattre, comme le faisaient les théologiens avant, ou des aberrations de l'esprit humain. Ça devient des objets dignes d'intérêt, regardés comme justement des survivances, des jalons d'un monde perdu, qui n'existe plus comme tel, qui est en train de disparaître. Et ça va être un thème constant dans toute l'histoire du folklore comme discipline. C'est l'idée que tout ça est en train de disparaître, qu'il faut le préserver d'une manière ou d'une autre, qu'il faut en témoigner, parce que ce qu'on se dit, c'est que finalement, ce sont des vestiges d'une autre époque, d'une autre ère, et que comme tel, finalement, on est quand même dans le siècle des Lumières, dans le siècle qui commence à s'intéresser à l'histoire, à l'historiographie, à ce que deviendra l'anthropologie, l'ethnologie, les sciences humaines. Et donc, on commence à porter un regard plutôt scientifique sur cette idée que finalement, ce ne sont plus des superstitions qui mettent en danger la religion, c'est plutôt des vestiges, des survivances d'une autre époque. Alors, comme l'écrit Nicole Belmont, la naissance du folklore en tant que discipline a donc eu pour condition le rejet dans un passé lointain des traditions populaires qui deviennent alors des vestiges ou des survivances. Ce rejet était destiné à donner une valeur positive à des données sociales dont l'absurdité, par ailleurs, était totalement choquante. La raison était incapable de justifier, par exemple, le comportement du jeune homme désireux de connaître la couleur des cheveux de celle qu'il épousera. Alors, il devait, la veille de la Saint-Jean, faire trois fois le tour de ce qu'on appelle le feu de joie, prendre un tison enflammé, le laisser éteindre dans sa main gauche et le soir, avant de se coucher, le mettre sous le chevet de son lit, enveloppé d'une chemise qu'il a portée trois jours. Il faut que tout cela se fasse les yeux clos et le lendemain matin, au lever du soleil, le jeune homme trouve autour de son tison des cheveux de la couleur qui doivent avoir ceux de sa future épouse. Alors ça, c'est tiré d'un texte de 1810, donc après la Révolution française, de Thomas de Saint-Mars, de quelques usages superstitieux qui précèdent et accompagnent les mariages, publié justement par une des publications de cette époque qui s'intéresse à ça, c'est les Mémoires de l'Académie celtique. Il est manifeste qu'il n'existe aucun lien logique apparent entre cette série de gestes et le résultat recherché. Cette pratique avant était considérée comme une pure superstition de la part et comme même quelque chose d'inquiétant de la part de l'Église, ensuite comme une pure superstition de la part des élites urbaines qui trouvaient que les paysans étaient tous des arriérés mentaux. Et pourtant, à partir de ce moment-là, ce qu'on commence à penser, c'est que finalement, elle a un sens, mais c'est un sens qu'il faut découvrir. Et ce sens-là, on ne le découvre que dans le passé. C'est parce que c'est un vestige d'un système plus ancien dans lequel elle avait probablement un sens, mais ce sens est disparu avec le système lui-même qui le fondait. Et donc, à partir de ce moment, il y a vraiment cette idée que finalement, on est entouré par des gens qui vivent encore dans un monde extrêmement ancien, dans leurs croyances, dans leurs pratiques, etc. Ils ne comprennent pas nécessairement ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont des rituels de la tradition, de traditions très anciennes qui suivent d'autres lois très en dehors de l'école, en dehors de la transmission de lettrés du savoir, et qui peuvent nous donner à comprendre ce que c'était que le passé même de la nation, mais aussi de l'humanité, etc., etc. Et ce qui est très important pour ce que sera le folk horror, c'est que précisément, ces croyances, elles sont encore là. Et par exemple, Thomas Crofton Crocker, il publie dans son livre important, Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland, il publie des extraits de journaux de son époque, donc 1826, sur des meurtres qui ont été associés à des faits. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, encore en 1826, il y a des gens qui continuent à penser que les faits, alors il ne faut pas penser aux faits de Disney, évidemment, c'est pas du tout, c'est pas du tout, et c'est pas non plus les faits de Madame le prince de Beaumont, c'est pas les faits positifs des contes de fées un peu enfantins, c'est des faits terrifiantes, les faits comme les faits qui viennent du Moyen-Âge, qui viennent des traditions beaucoup plus anciennes, celtes et nordiques, etc. C'est des créatures de l'autre monde. En réalité, c'est des créatures qui nous mettent en contact avec l'autre monde. Et donc, on voit bien que pendant tout le 19e siècle, il y a des croyances comme ça qui continuent. Alors, il y a les croyances aux fées, il y a les croyances au petit peuple des fées, il y a les croyances aux vampires dans beaucoup, beaucoup, donc en Grèce, dans le monde des Balkans, etc., etc. C'est des créatures qui sont encore très présentes dans la vie quotidienne des paysans, etc. Et donc, finalement, les folkloristes qui commencent à travailler de manière scientifique sur ces choses-là, ils sont eux-mêmes dans une position qui va être la position typique de l'horreur folk, c'est-à-dire celui qui vient de l'extérieur, qui vient d'une société moderne et qui est confronté à l'horreur littérale de la survie de certaines pratiques, etc., qui sont choquantes par rapport à la morale plus chrétienne ou tout simplement la morale moderne, sécularisée, etc., etc. Donc, en fait, le folklore devient une sorte de science des survivances de ce qui est le plus archaïque, le plus ancien. Et c'est donc le père de l'anthropologie moderne, E.B. Tyler, dans la civilisation primitive, qui dit, je cite, « Ce qui reste des édifices de la vision primitive du monde, élevé avec tant d'habileté et de force par les faiseurs de mythes, ne subsiste plus aujourd'hui que dans des contes de nourrice, dans des vulgaires superstitions, dans des vieilles légendes qui se meurent, dans des idées et des allusions entraînées depuis les anciens jours par le courant incessant de la poésie et du roman. Et il s'agira dès lors d'exhumer sous le fatras de croyances, de coutumes, de légendes jugées bizarres, grotesques ou absurdes, les vestiges d'un état social et religieux antérieur à la civilisation, aux origines même des peuples européens et de leur mythologie fondatrice. » Et donc, Tyler décrit les survivances, je cite, comme le débris de civilisations mortes enclavées dans une civilisation vivante. Et son disciple Andrew Lang, qui va être très connu parce qu'il va beaucoup travailler sur les faits et sur toutes sortes d'aspects du folklore, il affirme « Le folklore recueille et compare les restes des anciens peuples, les superstitions et histoires qui survivent, les idées qui vivent dans notre temps mais ne sont pas de notre temps. » Et donc là, c'est très intéressant parce qu'on voit bien que le folklore est défini comme l'identification des survivances archaïques à l'époque moderne. Et c'est ça, pour moi, le véritable paradigme dans lequel émerge l'horreur folklorique. C'est cette idée qu'on est entouré par des survivances qu'on ne comprend pas d'un système plus ancien, qui est terrifiant pour nous parce que ça renvoie à des stades très anciens où il y a le cannibalisme, où il y a les sacrifices humains, les rites de fertilité, très choquant, autant du point de vue de très orgiastique, autant du point de vue de la sexualité que du point de vue de la violence, donc le sacrifice, etc. etc. Et donc l'horreur folk, elle prend ses racines dans le paradigme du folklore lui-même. Mais de l'autre côté, il y a l'autre versant, c'est le gothique. Et en fait, la question du recyclage culturel du folklore dans la littérature gothique, bah, très bizarrement, a été très peu étudiée. On a beaucoup étudié la littérature gothique sous plein d'aspects, mais en fait, on n'a jamais trop mis en parallèle le gothique et le folklore. Or, ce qui est assez intéressant, c'est que les deux apparaissent au même moment. C'est-à-dire que c'est vraiment deux courants qui appartiennent à ce qu'on appelait le pré-romantisme au sein des Lumières. Donc, c'est à la fois on commence à chercher le folklore et à la fois il commence à avoir des textes gothiques. Alors, c'est une relation complexe et c'est pour ça, je pense, que le label lui-même d'horreur folk ou de gothic folk est complexe parce que justement, ce sont des rapports compliqués. Parce que le gothique et le folklore ne sont pas synonymes, mais ils ont des liens très étroits. Et je pense que depuis, il y a en fait une tension entre une définition qui serait très centripète, c'est-à-dire où on essaye de créer un canon très précis de ce que serait le folk horror, et là, du coup, ça devient très britannique, et puis on parle beaucoup des deux vagues, donc la vague des années 70 avec la Unholy Trilogy, puisqu'on appelait la Weird TV anglaise, et puis le recyclage dans les années 2010. Et donc ça, c'est comme la définition très étroite du folk horror. Et puis inversement, il y a une définition centrifuge, et là le canon, il explose littéralement, et finalement, il est en constante expansion. Sur IMDb, il y a des listes de folie de 250, 300 et plus films d'horreur folk, et on voit bien que c'est très différent. Soit on prend une définition qui veut être très très précise sur une série de films et de séries télé, ou bien on ouvre finalement à quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de englober tout ce qui serait gothique avec des éléments folkloriques, voire folkloresques. Tu vas parler tantôt de la distinction. Mais donc, finalement, ce serait ça. Ce serait soit quelque chose de très précis, soit quelque chose de très vaste. D'où le lien problématique avec d'autres sous-genres, à commencer par les histoires de fantômes. Alors, est-ce que toute histoire de fantômes, elle relève du folk horror? Beaucoup d'histoires du folk horror sont des adaptations de Ghost Stories, qui était un des grands genres gothiques du 19e, 20e siècle, mais aussi des histoires de revenants, comme les vampires. Et là, on se rend compte qu'il y a des films de vampires qui sont dans le canon du folk horror, comme Vige, le film donc, tiré de la nouvelle de Gogol, le film soviétique. Donc, pas tous les films de vampires sont considérés comme du folk horror, mais les films de vampires qui se rapprochent du folklore vampirique, oui, et ceux qui sont plus littéraires, savants, fantaisistes, etc., qui n'ont pas d'appui dans le folklore, n'entrent pas. C'est pareil pour la figure de la sorcière. Pas tous les films de sorcières sont considérés comme du folk horror, mais les films de sorcières où il y a des éléments folkloriques entreraient dans le folk horror. C'est pareil pour la lycanthropie. La lycanthropie, c'est une croyance dans beaucoup, beaucoup de folklore, donc les loups-garous, mais aussi les ours-garous, les transformations zoomorphes. Mais là aussi, il y a des films de loups-garous qui sont dans le canon du folk horror parce qu'ils sont très folkloriques et d'autres non. Et on pourrait même dire que ce qui est en train de se passer, c'est un peu une tension constante entre essayer de circonscrire la définition de folk horror ou au contraire de l'ouvrir. Et si on l'ouvre, il y a encore beaucoup plus de romans qui vont entrer parce qu'on se dit, oui, mais OK, si on fait entrer Vige, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas entrer Black Sabbath de Mario Bava où justement il y a une histoire de Vourdalak? Si on fait entrer le Vourdalak, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas entrer, etc., etc. Dracula lui-même est une histoire qui a un lien quand même assez privilégié avec le folklore. Alors, est-ce qu'on va faire entrer les multiples Dracula dans de l'horreur folk ou non? Et puis, il y a une question aussi importante, c'est que le folklore lui-même est souvent horrifique. Et là, on a donc un premier versant, je pense, de l'horreur folk, qui serait le folklore horrifique. Donc, les histoires où vraiment on parle de monstres du folklore, La première version des Frères Grimm, avant que ça devienne un livre pour enfants, la première version des Frères Grimm n'était pas destinée aux enfants, c'était une vision, c'était des savants, c'était des folkloristes, c'était des mythologues, des philologues, etc., des historiens des religions. Et la première mouture des récits des Frères Grimm a été très expurgée par la suite, pour que ça convienne à un public enfantin. Parce que les premières histoires sont des histoires assez atroces, comme les mythes eux-mêmes, des histoires de cannibalisme, inceste, abus sexuels, enfin, toutes sortes de trucs très, 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 très dark. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que il y a d'un côté, donc, ce qu'on pourrait dire le folklore horrifique, qui serait vraiment les histoires de folklore qui sont elles-mêmes horrifiques. Et puis les transpositions gothiques. Et on pourrait parler, je pense, à l'intérieur même du gothique, d'un gothique folklorique. Alors là, c'est important de voir que tout le gothique n'est pas folklorique, parce que les romans de Anne Radcliffe ne sont pas folkloriques. Frankenstein de Shelley a des éléments, mais ce n'est pas folklorique. Il s'intéresse plus à des spéculations très savantes sur la nécromancie, etc., etc., mais ce n'est pas du folklore populaire. Mais par contre, il y a quelques grands textes qui sont du gothique folklorique. On peut penser, par exemple, à une des premières ballades qui a eu une immense influence sur toutes les littératures romantiques, c'est Lénore de Bürger, en 1774, qui est une réélaboration, donc très romancée, d'un conte type. Donc, dans l'index de Arne et Thompson, c'est le 365, qui s'appelle La fiancée du mort, ou Le fiancé de la morte. Et donc, c'est une réélaboration. On peut penser, bien sûr, à la légende de Sleepy Hollow, donc de Washington Irving, de 1820, qui part de beaucoup de traditions folkloriques sur ce qu'on appelle la chasse sauvage, dans beaucoup de traditions. Et on trouve un précédent dans un des recueils de contes de Musaüs, qui est maintenant moins connu, mais qui était donc un de ces grands recueils très romantiques allemands. On trouve justement la sorcière, etc., dans le conte de Gogol, Vie, donc de 1835. On trouve le vampire slave dans la famille du Vourdalak, de Alexis Tolstoï, de 1839. On trouve un ours loup-garou chez Mérimée dans Lokis de 1869. Et puis ça traverse comme ça tout le 19e siècle. Et curieusement ou symptomatiquement, tous ces textes que je viens de citer, pratiquement tous, vont être adaptés au cinéma. Et leurs adaptations cinématographiques au 20e siècle vont être considérées comme des films de l'horreur folk. Or, ce qu'on a là, c'est des textes qui décrivent. Qui intègre dans la littérature savante des éléments folkloriques. Donc ça, pour moi, c'est un premier élément de ce qui serait l'horreur folk. Et on est là aux frontières entre le gothique, le merveilleux, ce qu'on appelle souvent la dark fantasy. Et puis, il y aurait un deuxième bloc pour moi, très important, qui vient aussi de la théorie du folklore, de l'idée de la survivance. Et là, c'est le versant qui se concentre sur la survie monstrueuse, soit de créatures folkloriques primitives. Et donc là, on est tout à fait pris dans le fait que des gens modernes, etc., etc., bah, finalement, ils tombent sur des créatures qu'ils croyaient n'appartenir qu'au folklore. On est aux limites avec certains films qu'on appelle cryptozoologiques, donc du type les films sur Bigfoot. Les films sur des croyances donc à des créatures, le Wendigo, etc., etc. Et puis même, on est un peu aux origines de Lovecraft et y a un côté folk aussi étrange dans Lovecraft, qui lui était très fasciné par les folkloristes et par cette idée des survivances, etc. Donc ça peut être la survie des créatures, ou ça peut être tout simplement la survie monstrueuse de ces traditions-là, avec une nette prédilection pour le trope du sacrifice humain, qui vient beaucoup d'un des plus connus des anthropologues folkloristes, qui est Fraser, James Fraser, avec le rameau d'or de Voldemort. Donc, les théories de la survivance vont être à l'origine de tout un courant fantastique où finalement, là, ce sont des personnages qui deviennent donc urbains, qui deviennent des observateurs involontaires et souvent des victimes aussi de la survie de ces rituels païens présentés comme des transgressions monstrueuses. Et là, il y a beaucoup d'auteurs qui vont eux aussi être adaptés au cinéma ou à la télévision, donc Arthur Machen notamment, qui va avoir une grande influence sur Lovecraft. Et finalement, c'est ce modèle-là qui va être un peu repris par la trilogie des films britanniques, notamment par Wicker Man. C'est vraiment un peu le modèle de Wicker Man. Et là, on est aux frontières avec un autre genre qui serait le gothique rural ou le backwoods gothic au sens plus large. Et là, en fait, c'est pour ça que ce n'est pas toujours facile. Il y a des gens qui vont mettre Massacre à la tronçonneuse dans le folk horror, mais c'est plutôt du gothique redneck, rural, etc. Sauf que des fois, il y a là-dedans des éléments de folklore américain, etc. Donc, c'est pour ça que c'est des frontières toujours très, très... dans des frontières. Donc, pour résumer par rapport à ça, je dirais que si on veut vraiment une définition très fermée sur elle-même, bah, on revient toujours à la contre-culture britannique ou anglo-américaine des années 70 et le recyclage dans les années 2010 de ce legs. Mais si au contraire, on prend une vision plus ouverte, on arrive à une extension très intéressante, mais pratiquement peut-être pas infinie, mais en tout cas très proliférante, qui serait la tradition de l'horreur globale. Parce que là, il y a les histoires de fantômes japonais, il y a les histoires de fantômes indonésiens, il y a toutes les traditions de chaque tradition locale. Donc l'horreur dans chaque spécificité. Et donc, on peut voir là-dedans, dans cet intérêt global pour la formule, dans les pays scandinaves, dans les pays asiatiques, etc., etc., finalement, une sorte de retour paradoxal aux origines folkloriques du gothique et de l'horreur. Et c'est peut-être une volonté de se ressourcer en revenant aux origines, en s'affranchissant de la stéréotypie des sous-genres les plus galvaudés et aussi qui sont peut-être devenus les plus, à force de répétition, bah, ils sont devenus un peu trop redondants et ils n'intéressent plus de la même manière, donc le slasher, le torture porn, etc., etc. Et c'est une manière de ressourcer l'horreur en allant dans les origines, et puis aussi une façon de lui donner des nouvelles lettres de noblesse, justement en lien avec ce qu'on appelle souvent le elevated horror, l'horreur élevée, qui est une façon fancy de dire, bon, bah, finalement, c'est de l'art, c'est des films un peu plus d'art, d'auteur, ce n'est pas les films d'horreur à la chaîne tels qu'on les connaît souvent. Donc, Sylvie, je te passe la parole.
Oui, ben en fait, c'est ça, je voulais juste rebondir un peu sur ce que tu as dit par rapport à l'immensité du phénomène. C'est ça, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que l'horreur n'est pas traitée de la même manière selon qu'on est dans un pays, par exemple, colonisateur, où la menace parfois est représentée comme venant de l'intérieur du passé, mais peut venir aussi des croyances des opprimés, donc de ceux qu'ils oppriment. La violence est représentée différemment aussi. La violence de l'État est justifiée alors que celle des opprimés est condamnée. D'un autre côté, on a les pays colonisés, les pays qui ont connu l'esclavage. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est assez frappant. Comment les croyances redonnent du pouvoir aux opprimés, un peu avec la logique du power to the powerless, ce qu'on retrouve dans des histoires, entre autres, de vaudou et d'autres. Là, bien sûr, vaudou complètement déformé par rapport au vrai vaudou. Et puis, bon, évidemment, ça se décline autrement dans les pays non colonisés. Et finalement, dans les pays marqués par des tragédies aussi. Donc, on voit par exemple le drame des migrants. Encore une fois, est-ce que c'est un film d'horreur folk, His House? J'en sais rien. Il y a des éléments d'horreur folk dedans. Ou encore le motif du génocide dans un très bon film guatémaltèque qui s'intitule La Llorona, qui raconte l'histoire, en fait, qui repart d'une légende vraiment ancienne et qui parle justement de vengeance. de justice. Donc, c'est ça, je crois que c'est effectivement extrêmement vaste, souvent vertigineux et étourdissant. Donc c'est ça, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de mal à cerner, en fait, ce que je voulais faire, mais finalement, je me suis arrêtée sur deux films. Donc, essentiellement, ces deux films-là, même si je suis plutôt une littéraire, mais c'est, disons, c'est dans ces deux films-là que j'ai trouvé vraiment une expression super intéressante de ce qui pique ma curiosité, spécifiquement. Donc, ça va, je peux y aller avec la présentation. OK, donc en fait, les deux films sur lesquels je veux réfléchir, c'est Midsommar de Ari Aster et She Will de Charlotte Colbert. Donc, l'un qui date de 2019 et l'autre de 2021. Donc, c'est ça, je me suis demandé pourquoi, on pourrait se demander pourquoi ces deux films qui sont quand même assez différents. Donc, ils suivent l'évolution de deux femmes de milieu urbain. Donc, on voyait justement encore ce motif de l'étranger. L'une qui est jeune, l'autre qui est plus âgée, qui sont exilées en milieu rural, qui ont subi un traumatisme horrible. Et donc, leur guérison sera atteinte dans un environnement naturel grâce à un retour au passé pour Midsommar ou un retour du passé dans She Will, mais aussi par un ou plusieurs meurtres. Donc, bien sûr, ce qui relie tout ça à l'horreur. Donc, même si le surnaturel est absent dans Midsommar et qu'il se manifeste dans She Will, dans les deux cas, la fin est très cathartique. Donc, je pense qu'il a aussi cette fonction-là, le genre, malgré le meurtre, ou plutôt grâce au meurtre de l'abuseur. Cependant, on peut dire que la catharsis est vraiment très malaisante dans Midsommar et plutôt jouissive dans She Will. Donc, c'est ça. Ce qui m'intéressait, c'était de voir comment le rapport au folklore était traité, surtout dans Midsommar. Donc, qui joue aussi avec les notions de folklore, de fake lore, de folkloresque, pardon, et à la limite de post-folklore. Je voulais aussi voir comment il y avait des tensions, des frictions temporelles qui relevaient de la nostalgie. Donc, selon les catégories de Boehm, la nostalgie restaurative, surtout dans Midsommar, qui est vraiment de l'ordre du fantasme, d'un ordre préexistant qu'on idéalise, qu'il faut, qu'on essaye de restaurer, mais qui aussi comporte des dérapages tout à fait glaçants. Et finalement, plus spécifiquement sur She Will, qui est un film plus, je dirais, plus contemplatif, plus profond jusqu'à un certain point, plus mystérieux. Je dirais, c'est vraiment plus la notion d'anthologie, je trouve, qui est pertinente ici, parce qu'on voit vraiment la présence persistante de ce passé qui hante le présent, d'une chose qui est à la fois de l'ordre de l'absence et de la présence. Et bien sûr, je m'intéresse évidemment au revival de la folk horror. Donc, pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a toute cette explosion de films? Antonio, je pense que tu as donné déjà des bonnes pistes de réflexion. Mais voilà. Donc, en gros, pour parler, disons, de Midsommar, je vais juste faire peut-être une petite présentation. Donc, c'est ça, c'est un film, le deuxième film de Ari Aster, après Hereditary et avant Beau is Afraid, qui vient de sortir. Et donc, en gros, le film tourne autour de la relation amoureuse bancale d'un jeune couple, donc Christian et Danny, pardon, qui est, dès le début du film, traduite, en fait, détruite par cette tragédie, en fait, qui va décimer sa famille. Le couple est ensuite invité à voyager à Haga, en Suède, avec un couple d'amis sur l'invitation de Pelle, un étudiant suédois, pour assister à la fête traditionnelle du Midsummer et d'une petite, en fait, et donc de rentrer dans la vie de cette petite communauté idyllique, donc faite de blancheur, de nature, de fleurs, dans laquelle ils vont assister à des rites étranges, de plus en plus inquiétants, dont un suicide sanglant. Et bon, les membres disparaissent petit à petit. Et finalement, donc Danny va seul demeurer et être adopté un peu par la communauté. Donc, c'est ça, en fait, on voit qu'il y a, oui, il y a comment dire, on va reprendre, détourner, déformer le folklore comme tel. Donc, on pourrait y voir quelque chose de l'ordre de ce qu'on appelle le fake lore, qui est une notion théorisée en 76 par Richard Dawson, qui était un folkloriste américain. À la base, ça avait une connotation vraiment péjorative. Donc, en fait, ça représentait le fake lore, les coutumes fabriquées et présentées comme étant authentiques, mais qui ne le sont pas, qui sont fabriquées de toutes pièces, pour des fins commerciales ou patriotiques. Alors, oui, effectivement, il y a plusieurs pratiques qui sont qui sont tout à fait imaginées, donc qui ne sont pas authentiques du tout dans le film. Cela dit, Ari Aster a fait une recherche, semble-t-il, phénoménale sur toutes les traditions de la fête du Midsummer, qui sont aussi, qui est une fête aussi pratiquée en Angleterre, en Allemagne. Donc, il a fait vraiment des recherches très approfondies sur les runes, sur la broderie, les décors muraux, etc. Mais il y a eu aussi tout un volet qui est faux. Donc, bien sûr, Harga existe, mais il n'y a aucun fondement scientifique qui crédible selon les historiens à l'idée qu'il y aurait eu des sacrifices humains. Donc, c'est ça, il y a à la fois du vrai et du faux, et c'est très habilement reconstitué, justement. Et ça m'amène à la notion de folkloresque, justement, qui est une notion développée par Foster et Tolbert dans l'ouvrage « The Folkloresque, Reframing Folklore in a Popular Culture World ». Donc, le but étant d'explorer les points de jonction entre folklore et culture pop, et donc de voir comment l'un perçoit l'autre. Donc, comment est-ce qu'un produit folkloresque aussi finit par devenir du vrai folklore plusieurs années après ou plusieurs générations après. Donc, en fait, il voit justement, il y a en gros trois grands axes. Donc, comment est-ce qu'on va intégrer les éléments du folklore dans des œuvres de culture pop, dans une combinaison vraiment originale. Le produit ne fait pas partie du folklore comme tel, mais en donne l'impression. Donc, on voit ça dans Midsommar, donc l'emploi des runes, le maple, les couronnes de fleurs. Il y a même une référence à la pratique de l'aigle de sang qui n'a jamais été avérée. Le rituel de l'Atestupa aussi, qui est très contesté par les historiens et les folkloristes. Mais ça joue, je pense, sur l'impression de réel, donc l'impression qu'on est face à quelque chose d'authentique. Et je pense que ça répond à un intérêt du public. Il y a aussi bon le portrait, donc plus le commentaire méta, donc comment la culture pop représente le folklore et le folkloriste. Donc les étudiants américains qui arrivent sont des étudiants en anthropologie, donc on voit une caricature justement des uns, c'est quoi leur posture d'exploitation, donc ils veulent essayer de profiter de l'occasion, ils essayent de voler même des photos du livre. Et il y a même le troisième volet qui est plus la parodie, Il y a effectivement des passages dans le film qui sont, enfin, on peut pas les prendre au sérieux. Donc, notamment la scène de rituel sexuel qui est très ridicule et malaisante. Donc, je pense que tous les éléments, les trois grands axes du folkloresque sont vraiment exploités très bien dans ce film. Et puis, ben, c'est sûr que ça nous amène un peu à l'autre volet, en fait, qui est plutôt celui de la nostalgie. Donc, on pourrait voir aussi ça comme une des composantes du post-folklore. Donc, on cherche en fait à reconstruire, on a cette nostalgie du monde perdu qu'on va fantasmer, qu'on va fétichiser, mais qui n'a jamais vraiment existé en fait. Donc, on le construit a posteriori, même s'il n'existe pas tel quel. Donc, c'est ça. On peut vraiment dire que, bon, il y a deux types là de nostalgie, mais on ne peut pas parler de nostalgie réflexive dans Midsommar. C'est plutôt vraiment de l'ordre restauratif. Donc, bien sûr, axé sur la notion fantasmée de cet ordre-là préexistant qu'on veut reconstituer. Donc, et c'est sûr que le cinéaste joue beaucoup sur l'aspect esthétique. Le film utilise une palette de couleurs très vives, très saturées pour représenter les paysages naturels de la Suède qui, d'ailleurs, ne sont pas ceux de la Suède parce que le film a été tourné en Hongrie. Mais quand même, ça évoque un sentiment de nostalgie pour cette beauté naturelle. Et je pense que ce qui est très réussi, notamment dans le film, c'est comment est-ce que le paysage, entre guillemets, scandinave, est idéalisé. Donc, vraiment comme un espèce de phénomène d'insta-horreur. Donc, on n'y voit que beauté, fleurs, paysages bucoliques, rayons de soleil, blancheur. Et justement, bon, cette communauté est isolée, donc elle correspond bien sûr à cet autre trait de la plupart des films d'horreur folk qui parlent justement d'une communauté isolée. Et donc, il y a aussi une sorte de dislocation parce que quand les personnages arrivent là, donc ils vont prendre des drogues, leur perception de l'espace va être altérée, leur perception du temps aussi va l'être à cause du soleil de minuit et puis de la luminosité un peu artificielle à laquelle ils ne sont pas habitués. Et donc, c'est ça nous envoie aussi, donc ça, c'est vraiment juste en surface, c'est un beau vernis bien brillant, mais c'est sûr qu'on voit dans ce film comment la préservation de la tradition peut conduire à des extrêmes inhumains et que la nostalgie peut être un catalyseur d'actes tout à fait atroces. Et c'est là qu'on arrive, je dirais, au deuxième volet là, de cette nostalgie-là dans Midsommar, qui porte vraiment sur la nation, Donc, elle évoque le passé national, le futur ou éventuellement futur, mais elle est liée aux traditions nationales, donc transmises de génération en génération. Donc, c'est ça, c'est là que le principe de reconstruction de quelque chose qui est fait en rétrospective s'applique. Donc, en fait, l'objet de la nostalgie ne correspond pas à la réalité de l'objet. On va rechercher une qualité qu'on va projeter sur l'objet. Et donc, on regrette une époque qu'on considère comme authentique, mais en fait, le monde perdu n'a jamais réellement existé, sauf comme une image. Et c'est ça, au départ, c'est très habile parce qu'on a vraiment l'impression qu'on nous présente une utopie. Donc oui, on est revenu à des usages anciens, on est purgé des défauts du capitalisme, donc la propriété privée est éjectée, la famille nucléaire est explosée, donc toute la communauté est la famille. Mais en même temps, je pense que ce qui est assez terrifiant, c'est comment ça fait un portrait assez subtil et en même temps qui ne l'est pas, d'une communauté au fond très raciste et qui valorise des valeurs, excusez-moi pour la répétition, mais vraiment une vision suprémaciste blanche. Et il y a vraiment, il y a le premier, je dirais le premier indice, c'est la bannière qui est présentée à l'envers quand les personnages arrivent sur le territoire, où c'est écrit « Stop mass immigration to Helsingland ». Donc, c'est vraiment, on sent, mais en même temps, ce n'est pas dit tout de suite frontalement, qu'il y a une vision vraiment protectionniste des habitants. Ils veulent écarter l'altérité, ils veulent aussi, jusqu'à un certain point, pratiquer une forme d'eugénisme parce que, bon, ils sont une communauté fermée, mais ils savent qu'ils doivent aller chercher du sang neuf pour renouveler la lignée. Mais bien sûr, il faut la préserver et puis il faut que les anciens donnent leur accord. Et évidemment, ils ne cherchent que chez les Blancs parce que, il faut garder leur sang, entre guillemets, pur. Donc, j'ai vu que c'était, on pourrait dire, c'est presque l'ultime wet dream des suprémacistes blancs. Et d'ailleurs, il y a une référence au nazisme parce qu'il y a un livre qui apparaît très, très rapidement dans le film qui s'intitule « The Secret Nazi Language of the Utharc », donc qui fait référence à l'utilisation que les nazis avaient fait des runes. Chose de très réussi dans le film parce qu'il y a à la fois toute la beauté, le soleil, les fleurs, la blancheur aussi qui est magnifique, mais qui est aussi à double tranchant parce que est-ce qu'elle représente la pureté de la vie idyllique ou le symbole de la suprématie? Puis j'y vois vraiment une espèce de cautionary tale dans le sens où Midsommar montre la capacité de ces groupes suprémacistes blancs de recruter des nouveaux membres en promettant solidarité, soutien et réconfort. Ce que cherche justement le personnage principal qui a été complètement déchiré par une tragédie qui n'est absolument pas soutenue par son conjoint. Et donc c'est ça le paradoxe qui rend le film, je pense, si bon. C'est à la fois le fait que la communauté est extrêmement violente, hostile à la diversité, mais qu'elle est la seule voie pour la guérison du personnage. Et donc, sa seule solution, en fait, pour s'en sortir, c'est d'être absorbée par la communauté. Et elle réussit à vivre cette rupture, à la fois une rupture libératrice de la relation toxique et l'inclusion dans une nouvelle famille, en fait. Et c'est ça qui est aussi... C'est ça, pour terminer un peu sur ce volet-là de Midsommar, ce qui est troublant, c'est l'évolution du personnage de Dani qui est vraiment dans une zone grise. Donc au départ, elle suscite l'empathie, son conjoint est vraiment détestable. On est jusqu'à un certain point heureux de le voir puni, mais peut-être pas au point de souhaiter le voir cousu dans une peau d'ours et brûlé vif. Ça va un peu loin quand même. Et donc la catharsis finale avec la destruction du temple, le feu, qui d'ailleurs... est un clin d'œil au brasier dans The Wicker Man, parce que les deux films ont une structure vraiment, une diégèse. Dans ce film-là, une jeune femme qui sourit béatement devant cette espèce de bûcher atroce. Donc, elle condamne volontairement son ex à mort. Elle se fiche d'ailleurs de la disparition de deux autres touristes qu'elle a rencontrés, fort sympathiques, Connie et Simon. Elle regarde le bûcher, elle est entourée de fleurs, tout va bien, mais est-ce qu'elle est devenue folle ou est-ce qu'elle est vraiment heureuse? Et le film termine sur cette espèce de sourire qui est à la fois magnifique et atroce. Et donc, c'est ça, ce que Ari Aster a dit, c'est qu'il avait vraiment justement voulu jouer sur le trope du conte de fées et entre autres sur le magicien d'Oz. Donc, il disait, en fait, que... Bon, contrairement à Dorothy qui s'enfuit, qui rentre chez elle, retrouve sa famille et son foyer dans The Wizard of Oz, et elle dit finalement « There is no place like home ». Donc, Ari Aster disait « Elle ne rentre pas chez elle, mais elle trouve son foyer, son nouveau foyer ». Et il disait que le film, c'était, je cite, « A Wizard of Oz for perverts ». Donc voilà, c'est un peu le principe justement de la nostalgie. Et puis bon, évidemment, elle se prend très au sérieux aussi, hein, parce que toute la scène, en fait, du rituel sexuel qui est complètement absurde à nos yeux, est prise très, très au sérieux. La scène finale aussi, où toute la communauté gesticule, est complètement déchaînée, très étrange, mais je veux dire, ils se prennent tout à fait au sérieux. Donc, on est vraiment dans la nostalgie restaurative la plus frappante et aussi avec tout ce qu'elle a de très réactionnaire et glaçant. Donc, ça, c'est plutôt pour le volet de, je dirais, de Midsommar. Puis, pour ce qui concerne l'anthologie, donc, en fait, c'est plutôt dans le film de Charlotte Colbert qu'on la trouve. On en trouve quelques traces en Midsommar, mais vraiment, c'est très léger. Éventuellement, c'est un domaine que j'approfondirai, mais dans She Will, c'est très présent. Donc, She Will raconte, donc se situe en fait dans les Highlands écossais, et le récit suit la convalescence de Veronica, une ancienne star de cinéma, qui se remet d'une double mastectomie. Et elle se retrouve sur le site où hommes, femmes et enfants ont été accusés de sorcellerie et brûlés vifs. Donc, le traumatisme de l'abus sexuel qu'elle a subi étant jeune est mis en parallèle avec celui de la persécution des sorcières. Et c'est au contact du souvenir de cette tragédie que Veronica aura le courage de dénoncer sa propre vérité et les abus qu'elle a subis dans sa jeunesse, et enfin de se venger. Donc là encore, on a un meurtre final qui est très cathartique et qui permet la libération et la pacification, en quelque sorte, du personnage qui a enfin, en fait, fait la paix avec elle-même et avec son passé. Donc ici, on n'a pas de folklore ni vraiment de folkloresque, on a encore moins de la nostalgie. Donc là, le retour au passé est vraiment évoqué en relatant des faits historiques, cruels et réels. Donc les vrais procès d'inquisition, les tortures, les meurtres des femmes accusées de sorcellerie. Et d'ailleurs, il y a un objet qui est représenté à travers les visions qu'elle a de la jeune sorcière qui est attachée à un arbre, qui est couverte de goudron, et elle porte ce qu'on appelait le witch's bridle, qui était une sorte de muselière en métal qu'on mettait soit aux sorcières ou parfois on mettait aux femmes trop bavardes ou qui faisaient trop de commérages. Donc, c'est ça, en gros, bon, qu'est-ce que c'est que l'anthologie? C'est vraiment, c'est ça, on parle de la figure du spectre selon Derrida pour parler, en fait, d'une présence persistante, d'un passé qui va hanter le présent, quelque chose qui va justement être intimement lié à la persistance des vestiges du passé, les questions de la mémoire, de la ruine. Donc, dans ce film-là, c'est surtout, ça se manifeste surtout dans la charge émotive qui imprègne les lieux marqués par les tragédies. Donc, ça aussi, c'est un thème fréquent dans les œuvres d'horreur folk. Et selon Greg Bodd, dans son article sur l'histoire de l'anthologie, donc cela pourrait être une émergence de souvenirs que nous n'avons pas connus, une sorte de paradoxe entre le passé et le présent. Et c'est là qu'on comprend à travers le personnage que notre vision du temps, la sienne, n'est pas simplement linéaire, mais qu'elle est multiple. Elle est fragmentée. Et donc, c'est ça, en fait, là, c'est littéralement la terre qui est imprégnée des cendres des femmes brûlées, celle du charbon aussi carbonisé, avec le motif récurrent du feu, des cendres qui va hanter le film, qui crée un lien entre les bûchers qui ont été faits il y a des siècles et ce qu'il en reste à travers les cendres présentes dans la terre et dans la boue. Et donc, ce que la cinéaste a d'ailleurs très volontairement pointé, c'est que ces femmes ont été la cible d'une annihilation collective, mais qu'elles sont encore là et qu'elles sont infiltrées dans la terre, elles restent avec nous. Et donc, à travers les rêves et les visions du personnage, les cendres agissent comme une incarnation de cette collectivité psychique, entre guillemets, à travers laquelle le pouvoir peut être utilisé. Et c'est justement cette terre imprégnée des cendres humaines qui a des propriétés de guérison. Et qui donne aussi un pouvoir surnaturel à Veronica qui fait une sorte de voyage astral, ou en tout cas qui peut sortir de son corps pour se venger à distance du réalisateur qui a abusé d'elle quand elle était enfant. Donc voilà, en fait, c'est intéressant parce qu'on voit aussi comment, bon, ça c'est assez classique, comment est-ce que Veronica peut transformer son traumatisme peut-être même en guérissant, à travers celui justement des femmes qui l'ont précédé. Et donc, on peut dire aussi que je pense que la diégèse dans ce cas-ci est vraiment très liée au paysage. Et je pense que la réalisatrice a fait exprès vraiment d'aller en Écosse, dans la région où la persécution a été, semble-t-il, le plus sévère. Donc, les historiens relatent au XVIIe et XVIIIe siècle l'exécution de plus de 4000 femmes dans cette région-là. D'ailleurs, il y a une campagne récemment visant à donner le pardon aux femmes torturées exécutées pour lutter contre la misogynie et les préjugés. Et la réalisatrice a même dit que, en fait, elle a déclaré « Nous étions en train de tourner dans le lieu où la dernière femme accusée de sorcellerie en Écosse a été brûlée. C'était un endroit fascinant car la terre semble contenir toutes ces histoires et tragédies. Nous pouvions le sentir pendant le tournage. » Donc, ce que je trouve très intéressant, en fait, pour clore là-dessus, c'est que dans les deux œuvres, on a vraiment la narration, le pivot de la narration qui est basé sur le retour soit du passé avec, ça peut être justement plus le surnaturel, notamment dans She Will, où ça peut être le retour au passé dans Midsommar, donc plus les traditions, les coutumes, mais qui encore une fois ne sont pas forcément, pas du tout en fait, ou seulement partiellement authentiques. Donc je pense que ces deux films-là en fait sont extrêmement différents. L'un est vraiment très diurne, très lumineux, l'autre est beaucoup plus nocturne, plus intérieur. Mais je trouve qu'ils ont ce point de jonction, cette espèce d'intersection qui est vraiment fascinante. Donc, c'est vraiment cet aspect-là, je trouve, qui m'a attirée dans ces deux films-là. Et puis, c'est sûr, je pense qu'on pourrait en reparler. Donc, pourquoi cette renaissance de l'horreur folk dans les dernières années? Pourquoi cette explosion? Moi, j'aurais plus tendance à adopter la définition plus large dont tu parlais, Antonio. Je crois qu'elle est plus... Elle est plus intéressante, elle est plus porteuse de sens. Mais encore une fois, je pense que on peut revenir à la phrase de Simon Reynolds qui disait "Nostalgia for the past intensifies because the world is changing faster." Et je pense qu'il y a un peu de ça, donc à différents niveaux, cette espèce de soif d'authenticité, elle se manifeste parce que on vit dans le contexte qui est le nôtre. Donc,
on vient de recevoir Eric. Bonjour Eric. Eric Falardeau, auteur de plusieurs ouvrages, dont notamment un ouvrage consacré, entre autres, à l'horreur, qui est Le corps souillé, gore, pornographie et fluide corporel, et qui va justement, lui, nous parler d'un aspect crucial de l'horreur folk, qui est l'aspect ritualisé, l'aspect des rituels.
Donc, merci, Antonio. Effectivement, une chose qu'on remarque lorsque vient le temps de regarder à la fois au cinéma, mais dans d'autres manifestations artistiques, la question de l'horreur folk, c'est ce moment clé qui revient presque toujours, qui est celui essentiellement de l'invocation. L'invocation soit d'une puissance autre, qui est reliée donc à tout ce que vous avez déjà discuté auparavant, là, qui peut être une source de savoir païen, des êtres mythologiques, en fait, tout ce bagage-là, finalement, de référents autour duquel s'articule finalement cette confrontation là, entre le rationnel, l'irrationnel et tout le reste, donc des choses que vous avez déjà discutées, mais donc ce moment-là clé de l'invocation qui prend souvent donc, la forme d'un certain rituel, donc une façon de convoquer cet imaginaire, ou plutôt ces forces-là qui sont derrière la manifestation qui vont venir troubler en quelque sorte le quotidien. Donc c'est un peu un moment fondateur ou une scène clé. Cette invocation, ce rituel, donc pour revenir à l'idée de rituel, donc ça a été étudié dans énormément de disciplines. On peut penser à l'anthropologie, donc à la sociologie et plusieurs d'autres choses. On pense par exemple à Marcel Mauss et ses techniques du corps lorsqu'il parlait justement des trans chez certaines peuplades qui leur permettaient justement de communiquer avec tout leur panthéon de divinités et que souvent, bon, ça prenait la forme d'une certaine extase, donc de trans extatique, c'est-à-dire qu'on entrait dans un état second à travers l'utilisation, que ce soit de substances altérant la conscience, que ce soit à travers la musique, donc justement l'art qui, qui permettait souvent d'ouvrir une porte d'entrée pour communiquer et puis aller chercher ou se connecter finalement avec que ce soit la nature, que ce soit justement ces entités dont on parlait tout à l'heure. Si on regarde justement au cinéma, c'est assez intéressant de voir que cette dimension ritualistique et cette façon d'entrer en transe répond, ou plutôt utilise certains codes au niveau de la mise en scène, au niveau des choix visuels et sonores qui viennent justement, non pas uniquement dans la diégèse, placer les personnages justement dans cet état où leur permettre de connecter avec la puissance folklorique, mais qui permettent aussi de mettre le spectateur dans un certain état qui est proche pour le spectateur lui-même de cet état un peu de rêve, mais aussi de transe, ou même parfois de rentrer dans cette esthétique du rituel et de vivre un rituel avec les personnages à l'écran. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de Midsommar. C'est un bon exemple, justement, d'une lente progression où l'esthétisme, à travers ces scènes de plus en plus disruptives, à travers la mise en place des personnages, à travers l'utilisation des chants, de la musique, du visuel aussi, donc à travers des traces dans l'image, vient aussi à mettre le spectateur, ou plutôt le faire participer, finalement, à ce long rituel qui constitue en fait une bonne partie du film. Mais je pense que pour bien voir, ou plutôt pour donner des exemples très très clairs de ça d'une façon assez pertinente, on peut voir beaucoup ce recours à cette esthétique rituelle du côté du cinéma expérimental. Et donc, je vais vous citer quelques petits exemples de courts-métrages essentiellement qui... dans lesquels on retrouve énormément cette dimension-là, justement, qui permet d'ouvrir sur le folk. On peut penser, par exemple, au court-métrage de 1972, Transformation, de Barbara Hirschfeld, où ici, on a affaire à un groupe de femmes, donc cette idée de la sorcière, encore une fois, on se réunit dans la forêt, et puis on performe un rituel pour ouvrir, dégager certaines forces, mais ici, bon, dans 1972, la cinéaste utilise ça pour faire effectivement un commentaire féministe, donc sur la figure de la sorcière, mais aussi ce moment de rassemblement qui peut, en apparence, sembler terrifiant de par justement les codes qui sont utilisés, que ce soit le feu, que ce soit justement la noirceur, la nudité, ces danses un peu folles qu'on fait pour justement faire ressortir finalement les puissances de Gaïa quasiment, ou de la terre nourricière, donc qui sont les plus proches de peut-être de la magie blanche que de la magie noire, mais peu importe. Donc, dans ce cas-ci, une façon qu'on a trouvé de faire et qu'on revoit souvent, c'est souvent par cette utilisation très, très intense du son, que ce soit l'utilisation de percussions, donc qui est très proche, encore une fois, de ces idées de transe extatique qu'on a pu voir en anthropologie et dans d'autres disciplines auprès de certains groupes. Mais cette sonorité s'exprime aussi dans une musique qui est souvent dissonante, qui va aller finalement, non pas à l'encontre de ce que l'image va montrer, mais qui va participer finalement à un certain état de cacophonie très proche de celui finalement qu'on essaie d'instaurer chez les personnages dans la diégèse, c'est-à-dire un état d'incompréhension, de malaise qui nous place par rapport, qui nous met en posture finalement de réception, mais aussi de vulnérabilité. Et donc, dans ce court-métrage-là, Transformation, on va vraiment pousser l'utilisation du son et du montage, un montage souvent très, très rapide, donc des coupes très, très brèves, pour contribuer au sentiment de désorientation, qui peut être propre finalement quand on pense, là, danser autour d'un feu, donc c'est un peu ridicule ce que je vais dire là, c'est un peu grossier, mais je pense que c'est peut-être une manière de se l'imaginer assez simple. Donc, on a une lumière qui est vacillante, qui va projeter des ombres sur des corps, qui ne se rendra pas très loin dans la forêt ou autour, mais la même chose aussi sur les personnages qui se déplacent, qui eux-mêmes projettent des corps, qui vont adopter des mimiques au rythme de la musique ou non, ils sont appelés à participer, et qui vont même se déformer finalement par l'éclairage et par le mouvement. Et c'est un peu ça qu'on essaie de suggérer souvent, et dans ce court-métrage-là, entre autres, par ce montage rapide qui nous permet quelquefois de peu distinguer et qui, justement, rejoint cette idée d'une forme ritualistique au cinéma. Parce qu'on pourrait parler de rituel, c'est-à-dire simplement la procédure. Donc, hein, souvent, il va y avoir Si on pense, par exemple, encore une fois, exemple le plus simple, Kenneth Anger, si on prend Evocation of My Demon Brother ou encore même Pious Moment, ben, on voit vraiment ici, dans toute la dimension occulte, ce qu'est le rituel, c'est-à-dire une préparation. Et on a ça souvent dans les films de folk horror, là, que ce soit Wicker Man, donc les gens vont se déguiser, vont se préparer à entrer, vont se préparer à faire le rituel qui leur permette de justement d'entrer en contact ou de dialoguer avec ces différentes forces. Et ensuite, le rituel en tant que tel, dans un endroit précis, donc hein, souvent en magie ou en occultisme, donc on va avoir vraiment une pièce ou un lieu qu'on trépasse qui nous permet d'entrer dans le rituel et d'en ressortir. Donc, l'idée la plus simple pour les amoureux de Doctor Strange et de bande dessinée de ce monde, c'est le fameux cercle, là, le cercle de sel qu'on voit souvent dans le cinéma d'horreur aussi. Mais on entre et on est protégé et lorsque le rituel est terminé, on peut en ressortir. Et à travers de ce cercle-là, donc on peut, dépendamment des forces qu'on veut évoquer ou de ce qu'on veut provoquer, donc soit se laisser aller totalement et participer des sacrifices, soit simplement invoquer avec des paroles ou une série de gestes spécifiques, ou soit même tomber dans des débordements, justement, qu'on parle de transextatique, ben là, peut-être plus des bacchanales, là, ou que dans un endroit fermé, on peut vivre pleinement des expériences corporelles, physiques qui nous ramènent à un état peut-être plus primitif et païen. Ce qu'on voit aussi, donc, je le dis dans les films, donc on pense à Wicker Man, on pense Midsommar est un autre bon exemple. Mais on voit aussi ça dans d'autres types de cours. Un bon exemple ici, c'est Hymne to Pan de François Miron, donc en 2007. Hymne à Pan, donc ce personnage, c'est un personnage qui représente bien le folk horror, et bien celui-là, Pan, et par ses débordements, par justement son lien avec tout un imaginaire païen, et même religieux, lorsqu'il a été repris la figure du bouc, etc., dans Witch, par exemple, de Roger Ebert. Mais bon, ici, c'est une danse, mais qui évoque et qui se construit autour d'un poème d'Aleister Crowley, figure mythique de l'occultisme et de la pratique télémique, donc est une forme d'occultisme qui a été développée par Crowley où la volonté permet justement de modifier le réel. Il y a beaucoup de ça, justement, encore une fois, dans le folk horror, cette idée qu'une volonté peut transformer les choses. Mais bon, ici, on a encore une fois le montage très, très rapide, la sonorité dissonante, l'évocation du personnage de Pan, et donc, qui viennent rejoindre, finalement, cette structure ou cette esthétique, finalement, du rituel qui fait écho à ce qui se passe dans les différentes diégèses et qui, finalement, vient appuyer, donner une autre teinte et souvent confirmer, dans le cas des folk horror, la présence ou plutôt l'intention ou la volonté, la force qui est souvent maléfique ou autre qui vient briser un certain ordre établi. Donc, c'est assez intéressant de voir comment finalement on utilise tout ça. Parmi les autres choses que je trouve qui est intéressant d'évoquer lorsqu'on parle d'une esthétique ou d'un imaginaire référentiel dans le folk horror, de l'idée de rituel, de transe, d'invocation, il y a souvent le recours à des machines qui enregistrent et qui restituent, et là quand on parlait de travail sonore, c'est assez intéressant, qui restituent des sons ou qui captent des choses d'un autre monde et qui permettent justement aux puissances de s'incarner à travers finalement les ondes, que ce soit visuelles, sonores, à travers une dimension matérielle. Ça rappelle entre autres les expériences, par exemple, de Thomas Edison, donc avec ses machines pour capter finalement les enregistrements de l'au-delà. Il essayait avec les ondes justement de capter tout ça, mais on pense souvent à des objets comme la radio qui est souvent présente dans les œuvres de folk horror, les disques, donc le phonographe, avec son vraiment très crépitant. donc ça aussi, c'est une chose qu'on entend souvent. Le film dans le film, donc souvent on va peut-être découvrir une vidéo, une bobine Super 8, Super 16. On peut penser à des films qui ne sont pas nécessairement propres au folk horror, mais des trucs comme la série Sinister. Donc il y a toutes sortes de choses comme ça qui participent finalement à ce caractère méta qu'ont les œuvres de folk horror contemporaines, ou plutôt qui s'inscrivent dans le contemporain, d'évoquer finalement, tout ce mystère et ce passé un peu enfoui à travers des artefacts qui auraient participé eux-mêmes à enregistrer ce qui ne devait pas être. Un bon exemple de cela, qui est un film qui se rapproche du folk horror, mais qu'on pourrait quand même garder dans la dimension fantastique, c'est Lord of Salem de Rob Zombie, où justement, c'est la musique, c'est un enregistrement qui déclenche finalement une sorte de couvent de sorcières et 45 minutes de fin de film où on tombe dans une esthétique très expérimentale qui vise justement à évoquer et à créer un état chez le spectateur plus proche justement celui du cauchemar, de l'invocation, plus proche de celui que vivent les personnages dans la diégèse, encore une fois. Donc, il y a beaucoup de films qui vont utiliser ces tropes, ces éléments-là pour pousser pour offrir en fait à la fois un commentaire sur le folk horror, mais le pousser davantage. Et donc ce montage rapide, pour résumer, cette idée de montage rapide désorientant, l'utilisation de la musique, du son, d'objets, d'un récit dans le récit où justement on va créer les conditions de ce rituel, vivre ce rituel et le clore, le terminer. Donc c'est vraiment des caractéristiques qui reviennent par-delà tout le rapport au mysticisme. Il y a vraiment une construction de sous-récit qui est celui, en bout de ligne, du rituel. Et donc, du film dans le film, du livre dans le livre, et de ce moment, justement, qui permettent de connecter avec toutes ces forces qui sont présentes autour de nous et qui forment l'intérêt, ou plutôt l'un des points d'intérêt du folk horror dont vous avez déjà discuté par rapport au film que vous avez mentionné, mais ce que tu disais aussi, Antonio, en ouverture, j'imagine, sur tous les origines du folk horror. Et donc ça, c'est assez intéressant. Et donc le cinéma expérimental est un bon terreau fertile de par sa proximité avec les arts visuels, mais souvent aussi l'occultisme. Donc, je parlais de Kenneth Anger, mais on peut penser à Maya Deren avec Ritual in Transfigured Time en 1946. On peut penser même à ses films ethnographiques qu'elle a fait, des cinéastes québécois comme François Miron. Donc, Frances, et même, on pourrait aller aussi loin que dire que les Viennois actionnistes, à quelque part, créaient des rituels et évoquaient certaines choses. Donc, on pourrait pousser la note un peu. J'oserais pas le faire ici, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant à ce niveau-là, au niveau finalement de l'utilisation du rituel et de la forme esthétique que cela peut prendre dans les images en mouvement. Et donc, je pense que l'une des forces du folk horror, particulièrement aujourd'hui, c'est ce recours finalement à une mise en scène très, très qui peut sembler très, très simple, mais qui demande une grande maîtrise et qui repose vraiment sur les plus grandes forces des images en mouvement, c'est justement des images en mouvement et des sons, et leur pouvoir évocateur. Donc, je pense que dans ce cas-là, le folk horror contemporain est toujours aussi pertinent parce qu'il nous ramène au pouvoir essentiel brut, à la force première des images projetées, c'est-à-dire celui dans une porter autrement, de nous faire voir les choses autrement, ce qui est un peu le but aussi du rituel et de toutes sortes de pratiques d'altération de conscience et de connexion avec le divin et ailleurs, et qui est finalement ce pouvoir de la machine à rêve ou même à cauchemar qui se traduit finalement, qui revalide l'importance ou plutôt l'intérêt que je pourrais dire peut-être même primal ou non rationnel que ces films-là peuvent provoquer et donc qui témoignent encore une fois de leur pertinence au fil du... Donc voilà.
Merci, merci beaucoup Eric. Effectivement, très intéressant toute cette dimension qui encore une fois relie avec les problématiques des folkloristes qui étaient très obsédés par la question des rites et par la question du sens à donner aux rites, mais aussi des écrivains qui justement, en essayant de retrouver le sens initial ou de l'utiliser comme des embrayeurs pour l'imaginaire, reconfigurer eux-mêmes aussi les puissances rituelles de la littérature elle-même, de la parole, de la ballade, et puis les cinéastes qui sont dans leur sillage aussi. Là, on sentait ton côté cinéaste aussi, évidemment, tes réalisateurs d'une œuvre culte, on peut dire, Thanatomorphose, et de quelques autres. Et est-ce qu'à ce niveau-là, est-ce qu'on peut s'attendre à un folk horror de Eric? Alors, il me semble que tu serais une des personnes vraiment bien placées pour nous offrir un rituel à la fois très extatique, très dionysiaque et très panique et angoissant aussi à la même par la même occasion.
Bien, en fait, c'est drôle que tu me parles de cela parce que mon dernier court-métrage, Asmodeus, c'est un peu ça. C'est une invocation d'Asmodée, qui est un des nombreux démons des différents cercles de l'enfer qui représentent la luxure. Et puis, donc, c'est un long rituel d'une dizaine de minutes, là. Donc, c'est vraiment ça avec une iconographie qui est tirée de l'occultisme, du thélémisme à l'Aleister Crowley, Eliphas Lévi. Aussi l'Église satanique un petit peu avec Anton LaVey, les différentes représentations de cette créature-là, mais il y a vraiment toute une dimension ritualistique. Donc, on a le pré-rituel, le rituel, la fin du rituel au travers du film. Il y a une dimension érotique, en fait pornographique même, là, donc c'est un film explicite. Et donc, oui, effectivement, c'est quelque chose que je trouve qui est fascinant au niveau du pouvoir plastique de la chose aussi. T'sais. Pas uniquement du symbolisme qu'on peut y mettre, mais je pense que le pouvoir plastique qui permet aux spectateurs de participer, comme je le disais tout à l'heure, à ce rituel qui est en fait la projection cinématographique elle-même et tout un imaginaire qu'on a commun. Donc, je trouve que c'est intéressant et c'est assez pertinent et fascinant. Et donc, le film, oui, a une bonne réception à l'international. Il se promène tout le temps. Donc, je pense que ça témoigne qu'effectivement, dans ce cas-ci, cette inspiration folk horror, ou en tout le moins, même si ce n'est pas directement un film qui s'inscrit dans le sous-genre, avec ses références, ses clins d'œil, il participe ou en témoigne et rejoint un public, peu importe où il se situe dans le monde.
Oui, il faut absolument que je le voie. Je n'ai pas pu encore le voir. J'ai très envie, d'autant que un de mes livres qui est encore là, bloqué par le fait que c'est immense, mais c'est justement sur le sexe du diable. Et effectivement, il faut absolument que je voie ton Asmodeus. Mais il me semble que c'est vrai que y a des choses dans la culture québécoise, dans le territoire, etc. Il y a des choses qui seraient intéressantes pour des réalisateurs d'explorer. Et je pense que tu fais partie de ceux qui pourraient explorer ça. Et puis par ailleurs, justement, est-ce que tu as eu, toi, ce que tu viens de constater justement à travers ton film, que c'est un langage un peu plus universel, on en parlait, le folk horror est est une des branches finalement du fantastique qui s'exporte le mieux et qui surtout correspond dans chaque culture à des particularités tout en entrant en dialogue, comme le folklore lui-même. C'est à la fois très local, mais c'est aussi très universel parce que tous les grands thèmes folkloriques se retrouvent dans des grandes aires culturelles très vastes, parfois même un peu partout dans toutes les cultures. Donc, je pense que l'engouement contemporain, comme le posait Sylvie, est-ce que tu as un peu une vision par rapport à ça, quel pourrait être le sens de notre intérêt contemporain pour ça. On a évoqué le fait que l'horreur se cherche un petit peu des manières de se ressourcer en retournant à ses origines folkloriques, et pour se réapproprier un peu le fantastique plutôt que juste l'horreur gore ou juste le torture porn, etc., etc., ou le slasher. Puis aussi le côté, Sylvie parlait du côté qu'on est en une profonde époque d'altération, de transformation technologique, etc., etc. Et qu'un peu comme dans les années 70, il y a une volonté, à la fois retour à une vie plus rurale, donc avec tout ce fantasme toujours des citadins métropolitains de la globalisation. Et puis en même temps, les grandes horreurs qui nous attendent si on délaisse les centres urbains et qu'on va dans les bois.
Il y a plusieurs choses, je crois, que dans ce que vous avez mentionné qui est assez important, là, toi et Sylvie. C'est-à-dire que je pense qu'on l'a vu à plusieurs moments dans l'histoire de l'humanité, ce retour en quelque sorte d'un intérêt pour des formes de folklore, particulièrement du côté horrifique, mais également simplement du côté de notre rapport à la mortalité. Et c'est une des choses, donc, c'est le rapport à la spiritualité, la mortalité, aussi le folk horror. Si on le voit dans la grande vague du spiritisme du 19e siècle qui est arrivée, qui est une réaction finalement à une vague d'humanisme et de rationalisme. Ensuite, ça, au début du 20e siècle, avec la nouvelle vague d'occultisme, on parlait de Crowley, les années 20, la guerre qui arrivait, les gens qui se déplaçaient vers la ville. Donc, il y avait encore une réaction de ce que tu parlais, donc ce côté citadin, rural, technologie, monde qui change, gros bouleversement, puis bouleversement souvent violent, donc les deux guerres mondiales qui ont ramené aussi un intérêt pour le spiritisme entre les deux. Et aujourd'hui, justement, notre rapport à la technologie, donc l'Internet, le virtuel, et ce retour finalement à quelque chose qui serait naturel, entre guillemets, qu'on ne maîtrise plus vraiment ou auquel on est moins connecté. Bon, là, c'est une grosse généralité que je dis là. Je pense qu'il y a quand même des niveaux ou des détails à faire à ça, qui fait en sorte que ça reste toujours pertinent parce qu'en bout de ligne, ça questionne nos grands questionnements par rapport à notre place dans le monde, comment on se situe, ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas, ce qui est un autre aspect du folk horror. Souvent, c'est des personnages qui se retrouvent hors de contrôle face à d'autres personnages ou à d'autres forces qu'on ne connaît pas ou des choses qui sont cachées, donc non visibles, donc non maîtrisables, car non nommables. Donc, il y a quelque chose de très aussi lovecraftien, quand on pousse jusqu'à là, mais c'est assez intéressant. Puis, l'autre chose, je crois que dans le côté folk, dans le côté local, ça fait en sorte qu'il y a une pépinière, un bagage qui part de là, par exemple, les mythologies, on pourrait dire, les cultures, les Premières Nations, il y a eu des films qui ont porté sur le mythe du Wendigo, qui ont été travaillés dans la question du folk horror. Il y avait un court-métrage qui s'appelle Consume, qui est sorti il y a quelques années, d'un cinéaste des Premières Nations qui parle justement de ça, mais avec la dimension folk horror qui y participe. Cutthroat, je crois, qui est un long métrage des années 80. Il y a certains films, Première Nation, au travers de la figure du Wendigo, mais ensuite, après ça, quand on voit un peu partout sur le territoire canadien, je donne cet exemple-là pour arriver à ça, en fait, c'est que ce mythe-là n'est pas le même partout. Et après ça, il a des particularités locales selon les villes, les villages, des personnages qu'il aurait rencontrés. Donc là, tu as déjà une histoire qui se raconte, des variantes sur le récit de ce mythe-là, c'est un bagage pour le cinéma d'horreur, je pense, qui là est inépuisable et qui, justement, parce qu'il parle à des grandes tendances, parce qu'il parle de grandes questions, parce qu'il parle de mythes communs, tout en le rendant de façon locale, donc différent. Donc, la twist qui fait souvent qu'au cinéma d'horreur, on apprécie un film parce qu'il nous amène quelque chose de différent sur quelque chose qu'on a déjà vu souvent, parce que le plaisir du cinéma d'horreur, c'est la variante dans la formule, souvent. Donc là, ça devient très intéressant. T'sais, on peut penser le nombre au Québec juste de variantes sur la Dame Blanche, qui n'est pas un mythe proprement québécois, qui est européen, mais qu'à cause de l'immigration, donc ici, ça a été retravaillé, puis c'est devenu autre chose. Quand j'étais petit, moi, je viens du nord du Québec, l'Abitibi, puis il y avait une variation de la femme blanche, là, avec des gens qui l'ont rencontré, que je connais, puis des gens qui sont morts, des histoires de fous. Donc, juste là, une autre histoire avec une teinte qui est particulière à un endroit. Puis je pense que ça aussi, ça contribue finalement à rendre toujours pertinent le genre, donc cette teinte finalement locale que prend ces grands mythes, ces grands questionnements.
Et Sylvie, toi, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais voir dans un folk horror que tu n'as pas encore vu ou un aspect que tu trouves que le genre n'a pas encore exploité?
En fait, je trouve que le genre commence à exploiter la dimension plus féministe. Et c'est ça, je trouve que ça commence. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai voulu m'arrêter au film She Will, parce que c'est un peu comme une histoire de hantise à l'époque du Me Too. C'est littéralement ça. Puis on le voit un peu avec The Witch, on le voit un peu aussi avec Midsommar, mais moins. Donc les films présentent des Final Girls, des nouvelles Final Girls, donc qui sont meurtrières, oui, mais qui sont aussi une menace au pouvoir masculin. Puis c'est ça, c'est une nouvelle forme en fait de monstrueux féminin qui est représentée, mais que je trouve absolument magnifique. C'est un peu étrange de dire ça comme ça, mais c'est ça, elles ont comme des affinités avec le monde naturel, la magie, parfois la folie. Puis elles sont plus proches, elles sont présentées comme étant plus proches, disons, des traditions associées aux sociétés matricielles ou matrilinéaires et païennes, justement. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment est-ce qu'on peut inverser la vision négative traditionnellement judéo-chrétienne. Donc, c'est ça, je pense que c'est aussi la catharsis que ces films ce film en particulier représente, ça témoigne un peu des préoccupations des femmes contemporaines. Je trouve que c'est quelque chose qui commence à être fait, parce que si on regarde beaucoup de films d'horreur folk, il y a quand même une constante, ça a beaucoup été fait par des hommes blancs. Donc, qu'est-ce que les femmes vont en faire? Qu'est-ce que les Premières Nations vont en faire? Qu'est-ce que, je veux dire, des cinéastes, d'ailleurs, vont en faire? Justement, c'est pour ça que je parlais du film La Llorona, entre autres, que j'ai trouvé absolument magnifique. Enfin, évidemment, le film guatémaltèque. Donc, c'est ça, et toute la dimension, c'est ça, féministe aussi, comme j'ai dit, mais aussi politique. Je pense qu'il y a un filon là qui est très riche, qui est justement présent dans La Llorona.
Oui, on constate évidemment que c'est un genre très, très protéiforme. Je pense qu'on va y revenir parce qu'il y a d'autres aspects. Donc, il y a d'autres œuvres, etc., etc. Et c'est vrai que c'est un sujet très, très, très vaste. Il y a la dimension, Simon Laperrière voulait parler de creepypasta et du nouveau folklore associé aux nouvelles technologies, etc. C'est un angle aussi. Et il y aura sûrement d'autres domaines à explorer. Mais merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup, Eric. Et merci à tous ceux et celles qui écoutaient. Et donc, on se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode de Pop en Stock. Merci.
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 Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.